nas linhas preliminares, mensagem subliminar. Nada ficará escondido, é possível de decifrar. Seja rasteira ou puxada de tapete, o que será? Cobrado ao quadrado, vacilão receberá. Então saiba o que semear, escolhe o que vai lançar. Nesse universo imensidão, nesse mundão de diaspora. Nem disfarça se errar, que assumir é comunicar. Que cê se arrependeu, parceiro, pelo menos quer mudar. Do câmbio e do cambiar, surgiu a evolução. De quem não quer ibope, João, que é mesmo é a solução. Disposto a ajudar, sem pano pra trás alado. Cês adoram os falador, eu me juntei, fui pro escalado. Alinhado lado a lado, proporção que é quase mínima. Fujo dos tiozão que vem pra coa de Yasmin. Não passa a frente, eu tava ontem. Hoje eu tô a várias milhas, firmada no orixá de Yansã. Prazer, sou filha. Mamãe matando, eu sou a filha. Dali Oiá, eu sou sua filha.
Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette série de lectures. Les textes que vous allez entendre ont été écrits par les auteurs brésiliennes Elton Panambi, Rebecca Carapia et Lucas Veiga. Ils ont été traduits par le collectif Brasa, la traduction comme geste politique, constitué de Luana Almeida, Valentina Davenia, Aurore Zacaius et Léa Catarina Meyer, dans le cadre de la publication Texte à lire à voix haute.
Pour ce podcast, les textes sont lus par Nayan Sakou Mufonkolo, Luana Almeida et Bastien Hippocrate. Les lectures sont accompagnées d'une ambiance sonore par Jeanne Asvin. Le montage a été fait par Léa Catarina Meyer et le mixage a été réalisé par Julien Aheri. La pratique de traduction du collectif Brasa n'est pas menée dans l'idée de lisser la langue d'origine pour qu'elle fonctionne parfaitement dans la langue d'arrivée. Notre traduction assume délibérément le fait qu'elle mette parfois la langue française à mal et propose de créer d'autres modalités d'écoute.
Marquée par la lecture de Jess Oliveira, nous avons décidé de traiter un à un les mots et concepts intraduisibles. Il y a des intraduisibles dont la définition existe dans un autre texte. Et alors, nous avons créé un système de renvoi d'un texte à l'autre. Certains intraduisibles sont expliqués par les auteurs en notes de bas de page, certains par nous-mêmes, certains dans un glossaire qui accompagnera la publication. Pour aujourd'hui, les indications sur les intraduisibles apparaissant dans les différents textes se trouvent dans les crédits du podcast. Nous souhaitons que ces concepts, mots, sentiments qui surgissent du processus de traduction, tant par les intraduisibles que par les néologismes que nous choisissons de créer, s'infiltrent dans les subjectivités, les sensibilités et les français des lecteurisques. Et, ce faisant, nous rendent poreuses à des usages non normatifs des langues et des façons de penser les mondes.
Par les charognes de l'hier, de l'aujourd'hui et du demain. Extrait. Elton Panambi. 2016-2019. São Luís, Maranhão. Dans la possibilité constante d'un retour au passé. J'alimente mon rire dans ton malheur jusqu'à ronger toute la chair de tes os. C'est ainsi qu'ils parlent quand ils nous remettent la clé de l'enfer. L'Europe ne me paraît pas être un lieu sûr. Le roman. Il n'y a pas de roman dans la vie, ni dans l'art. La réalité a le goût de cigarettes Belmonte et de cognac au goudron, à l'odeur de ce coin de rue là d'en haut, où si chie et si pisse, à le son métallique Trincafero et la texture du pavé Pegemole qui, fracturé par les voitures. Pierre de Cantaria. Elle chante des lamentations Gégé et Nago, pendant que Zeibio, qu'ils disent être un esprit du port, se couvre de mousse de savon blanc, lave la peau noire dans l'eau de la source Ribeirão tous les matins, me demande de l'argent ou un verre d'eau, parfois un café, avec un sourire enfantin et dément. Ses yeux ont un brillant qui donne envie de pleurer. Il se lave sur ses pierres, se lave dans les ballasts de navires et transporte avec lui tout un lignage de noblesse dont personne n'a connaissance. Il pourrait être le petit-fils d'un roi et on ne le sait même pas. Ah, pour qui de l'art ? Reprendre dans nos mains ce qui a été volé. Enlève ce nom d'en face de moi. Art, performance. Sont encore des noms blancs pour dire le statut de création. Une façon de capturer et capitaliser des subjectivités. Une niche de marché, ère de connaissance. Ouvrir un nouvel onglet dans le CV en ligne. Nous n'allons pas nous emprisonner dans ces catégories. Les ébos que nous avons à faire sont plus. J'ai tardé jusqu'à ce que l'estomac saute en avant. J'ai tardé à me regarder dans le miroir. Je ne savais pas même la taille jusqu'à regarder dans le miroir à pied et dépercevoir ce que la vue s'acharnait à maintenir net. Les hommes sont une rature de Dieu. Espérer et désespérer. Le placenta, le caillot, le reste d'accouchement. Écoule le sang, fond le visage défiguré de la douleur des mouvements pour couronner et expulser la noblesse ancestrale qui sort de la caverne de la montagne. Le temps tarit le corps qui accouche. Ce corps n'arrête pas, ne demande pas que j'accouche. Dans les églises pentecostales, néo-nazis, militaires, ils prient pour leurs armes, leur poudre à canon, leur Bible à l'odeur de mort assassinée. Ici, dans l'utérus dégénéré, dans la chatte qui parle, dans l'enfant insurgé et inviolable, nous avons germé du rien. Nous sommes parents de l'eau et de la terre, venons de la boue et reconnaissons dans la foudre et dans le tonnerre le brillant de nos voix. Nous parlons dans l'accent des plantes qui guérissent les blessures du fouet et les séquelles ancestrales. Aussi, pour donner à boire Sinosinios et Osinias comme le charme qui nous libérera, c'est dans le soin. Nous savons le bien et le mal que fait chaque chose, ce qui se dissimule et ce qui est dissimulé. C'est à pas de gosse qu'on passe le relais, que les eaux rouillent leurs métaux, la peur ne nous ébranle pas. Comptez les gouttes et comptez les coups. Le geste décolonial vire de manière brutale dans un mouvement de silence et d'écoute. Résilience. Comment se transmuter en eau et quand même être sol et abri, profondeur et superficie. Comment se rendre vaste océan et en même temps terrain, cours générationnel qui accueille et reçoit des racines. Sur la terre se déposent les cadavres, sur la terre se portent d'autres vies, dans la mer aussi, il y a gestation et cimetière. Entre, il y a la boue, et dans elle, une danse infime, humide et constante. Une pause dans les scénarios de productivité, artistique, académique, sociale, pour amplifier la perception et faire saliver les sens. Je me suis juste assise. J'ai observé le temps et les êtres qui venaient avec lui, digérant le temps, masquant l'attente. À l'accouchement, la séquence de contraction, dilatation, la force d'un corps qui se plie et double en taille, et puissance pour expulser enfant et placenta. Sang vivant lavant tout l'utérus, les invisibles qui se révèlent, j'en voyais beaucoup. Après, un immense univers de pénombre liquide, dans le regard de l'être encore sensible, toutes les lignées ancestrales se révèlent. Tant de pleuvoir par les yeux presque tous les jours, de pleuvoir par les seins gonflés, et de se réveiller dans des lacs lactés, de redouter la mort, et d'avoir les instincts aiguisés à 1000 degrés. Je protège. Autre solitude, et une fatigue insistante pour pousser les limites plus avant. Désespoir qui se dilue dans les odeurs qui dominent la maison. Les bains de lavande et camomille pour calmer les coliques du nouveau-né. Bains dans la bassine d'aluminium dans la cour pour éloigner la chaleur. Bains d'herbe pour bénir les guérisons. Soupe d'haricots secs, thé de fenouil et bouillie pour donner plus de lait. Lait de coton pour laver le ventre. Saison de pluie, liquidité nombreuse. Toujours. Le décollement d'un corps et de l'autre, un organe qui se démarque du ventre partagé. Arbre de sang. Compagnonne, placenta placide et pulsant. J'ai parlé en accent banni pour fondre les morts qu'on nous avait mis avant notre naissance même. Son continu qui trépigne et les voix du temps bégaient dans d'autres tons. Aboyant, corps électrifié de fréquences sonores végétal et hydrique. Le mouvement de se décoloniser à partir de l'exercice quotidien de création d'un nouveau monde, dans un monde ruiné. L'existence de l'autre et ses infinies possibilités. Observer dans la fontanelle ouverte la pulsation du cerveau. Sentir dans les mains un crâne qui se modèle, qui se moule, s'adaptant au monde-là. Les mouvements péristaltiques, la digestion liquide dans un estomac sous peau presque transparente. Des os enfantins qui craquent. Un semblant de déconnaissance nostalgique, reconnaissance de l'étrangeté. Une magie complètement ordinaire. Les doublures des temporalités simultanées et la conscience des résistances ancestrales qui se manifestent dans nos corps et fait que nous nous identifions les unes aux autres. Chai. Délivrance pour réaccoucher des cosmogonies. Éclater, car ça ne tient déjà plus. Un jour Karkara, l'autre carcasse. Régurgitant des mots de chair, sang, liquide et benne de débris. Nous avons voilé des corps pendant que nous nichions des bébés. Essorer les saumures du visage écorché, enterrer les morts et renaître par la révolte. Par les charognes de l'hier, de l'aujourd'hui et du demain.
Mercredi des cendres, Rebecca Carapia. Les jours des cendres s'annoncent, et avec eux, les sentiments de mal-être, de faim.
Os dias cinzas se annoncent,
tracés dans le sillon de ce qui vit encore dans le sous-monde, ses yeux dans la tempête à cause d'une difficulté incompréhensible de cligner, lent comme une promenade sans destination. Ce sont les regards qui ne reconnaissent pas ton existence. Si difficile à enlever comme un carapicheux plein de pointes aiguisées qui paraissent inoffensives, mais qui ne sortent pas de toi. Un corps qui te rejette apparaît dans la multitude comme un fantôme qui raconte des histoires connues sur des jours difficiles. C'est un retour à l'endroit duquel tu es parti, parce que tu l'as toujours voulu. Une connexion qui pousse vers le lieu que tu as choisi comme oubli, pour détruire des mémoires, feu, fumée, tabac, bière, pour les reconstruire. Combien de mots il y a-t-il dans culpabilité? Un passé arraché du présent pour n'avoir jamais été compté. Un œil dont le reflet du miroir recherche ses ancêtres. Essayons de trouver dans la ligne qui divise le nez et la bouche sa propre ressemblance. Un vent fort essaie d'enlever l'épaisse poussière laissée par lui-même sur l'une des épaules. Le souffle vient chaud de la bouche. L'humidité ne permet pas que le poids change d'endroit. Combien de jours naîtront pour que ça ne fasse plus mal? Arriver à ce que ne peut faire aujourd'hui. Essayons de retarder le pas, allant vers le refuge blindé de colère. C'est possible de voir ce qui t'accompagne, même si les mots sont cachés derrière les langues de ceux qui savent raconter. Que garde un corps qui a oublié son propre chemin? Où trouver les fissures que te rappellent ce que tu n'as jamais vu? Eux, écoute, chaleur, temps. Je sais que les jours de cendre Mais on ne peut voir dans une chambre sans fenêtre.
Les diasporas de la biche noire, sur le fait d'être noir et gay au Brésil. Extrait. Lucas Veiga. Bicha est un terme utilisé pour désigner les personnes homosexuelles, surtout et en particulier celles efféminées. Généralement utilisé avec un ton péjoratif, ce terme est resignifié de manière empouvoirante par les communautés LGBTQIA+, et également ici, par l'auteur. Quel espace pour la bicha noire dans l'économie du désir? Le succès du mode de production capitaliste réside dans sa capacité à interférer directement dans nos façons de désirer et dans les objets de ce désir. Le capital, en même temps qu'il génère un produit dans les grandes entreprises, crée en nous, à travers d'un appareil médiatique global, le désir pour ce produit. Mais le capital ne produit pas seulement des biens de consommation. Il vampirise notre puissance de désirer, survie de celle-ci, crée et nous vend, grâce aux dispositifs médiatiques, toute une façon d'être, de penser, de consommer et de désirer. Le capital est une facette de la colonisation, son prolongement, sa conséquence directe, sa sophistication mercatologique. La préoccupation des capitalistes colonisateurs contemporains est moins d'exploiter des territoires géographiques que de coloniser des territoires existentiels qui perpétuent la logique qui sustente et rétroalimente les engrenages qui maintiennent le mode de production colonial capitaliste. Au sein de ces engrenages, on trouve le racisme. Nous savons que le problème du racisme est antérieur à la colonisation et au capitalisme, et remonte à la rencontre des peuples leucodermiques, blancs et jaunes, avec les peuples mélanodermiques, noirs, environ à partir des années 4000 avant Jésus-Christ. La configuration moderne du racisme, via la colonisation, l'esclavage, prend d'autres atours dans la contemporanéité. Le racisme est la condition de possibilité de l'existence et de la perpétuation du mode de production capitaliste, qui s'alimente de l'inégalité raciale sous une forme héritée du colonialisme et de l'inégalité des classes qui s'en est suivie. Le racisme étant un engrenage du capitalisme, celui-ci va opérer de façon à le perpétuer, vu que la fin du racisme amènerait à la fin du propre capitalisme comme nous le connaissons actuellement. Le maintien du statu quo raciste se produit par la colonisation de la pensée et du désir que le capitalisme entreprend par le biais des méga-appareils médiatiques globalisés. Si le désir est colonisé par le capital qui est blanc, ce que le désir se met à désirer, c'est la blancheur. Que reste-t-il alors pour la bicha noire dans l'économie du désir? Les images relatives à la beauté sont prédominamment liées à la blancheur. Des dieux grecs au podium de mode incluant la publicité, le cinéma et la télévision, le blanc occupe en tant que protagoniste la beauté ainsi que l'idéal de consommation pour l'amour romantique. Grandir au sein d'une société dans laquelle la beauté est dans l'autre et les marques qui te constituent physiquement et historiquement sont balayées a un effet subjectif déchirant sur la constitution du sens de la valeur propre et sur l'estime de soi. Pendant que le capitalisme, avec sa logique de consommation et jetabilité, a affecté nos manières d'aimer et de nous relationner, le racisme affecte la manière dont nous nous aimons nous-mêmes et comment nous nous relationnons à l'autre à partir de cet amour. Le racisme est l'expression de la haine de l'autre race et, ainsi étant, il est commun pour ceux qui sont la cible de cette attaque permanente à travers les divers dispositifs sociaux, politiques, économiques que cette société suprémaciste blanche a produit, finissent par intérioriser cette haine qui vient de l'extérieur et passent ainsi à expérimenter un douloureux affect d'auto-haine. Nous avons pour sûr déjà entendu quelqu'un, quelqu'une dire « Tartampion, tartampionne est noir, mais il est raciste. Machin, machine est noir, mais il est plus raciste que beaucoup de blanches et blancs. » Pour se référer aux attitudes des personnes noires en relation à elles-mêmes et aux autres membres de leur race. Nous affirmons cependant qu'il n'existe pas de noir raciste. il existe seulement des Noirs vivant un processus d'auto-haine. Haïr ses traits, détester sa couleur de peau, détester son histoire personnelle et l'histoire du peuple auquel on appartient. De ce point de vue, le racisme est un succès car il parvient à nous tuer affectivement, symboliquement, au-delà ou en deçà des statistiques d'homicides de personnes noires au Brésil. Il tue de tous côtés et de multiples façons. Avec une auto-estime affaiblie, la bicha noire essaie de gérer la solitude et le désir d'être aimée, même si elle croit parfois, inconsciemment, qu'elle ne mérite pas de recevoir de l'amour. Cette croyance est un effet du racisme sur sa subjectivité, qui la laisse dans une sensation d'insécurité en relation à sa propre valeur, même quand elle reçoit de la reconnaissance et de l'amour d'autres personnes. La confirmation venant de l'autre, que ce soit un ou une amie, une proche, une amoureuse, un amoureux, n'est pas suffisante pour apaiser la peur d'être rejetée et de vivre une solitude encore plus intense que celle qu'elle vit déjà. Cette peur du rejet est une introspection de la façon dont la société blanche traite les personnes noires, en les rejetant. Avoir grandi en voyant les super-héros représentés par des hommes blancs, ces personnages favoris de novellas ou de beaucoup de films étant blanches et blancs, les personnes qui occupent des lieux de pouvoir dans la société étant blanches, la pornographie gay, dans les magazines ou en vidéo, étant de manière prédominante composée de bichasses blanches, les films aux thématiques LGBT dont les protagonistes sont majoritairement des personnes blanches. Tous ces exemples sont des expériences de rejet que les bichasses noires vivent, bien que de façon inconsciente. Leur image n'est pas représentée. Leur corps, quand il apparaît, est presque toujours en position subalterne ou représenté de manière péjorative. Les différents dispositifs médiatiques étant l'un des principaux vecteurs de production du désir et la bicha noire étant en condition de rejet au sein de ces dispositifs, le lieu qui lui est relégué dans l'économie du désir est un non-lieu. Être vu comme exotique et être constamment fétichisé par les bichasses blanches sont des marques de ce non-lieu. Son humanité, ainsi que son intégrité en tant que personne, sa personnalité, son histoire, ses désirs, sa façon de voir et d'être au monde sont réduites à une dimension seulement corporelle. Le non-lieu de la bicha noire dans l'économie du désir est le lieu du corps, parfois animalisé, dans lequel le fantasme autour de la taille du pénis et de sa performance sexuelle remplit l'imaginaire des bichasses blanches, laissant peu d'espace pour que la bicha noire puisse entrer dans une économie du désir comme sujet qui a un corps et pas seulement en tant que corps. Les mouvements LGBT sont encore fortement traversés par la suprématie blanche et par le racisme qui en découle, de façon à ce que les personnes LGBT noires, même dans ces espaces plus pluriels, dans lesquels on présuppose l'accueil de toutes et tous ceux qui possèdent une sexualité déviant la cis-hétéro-norme, expérimentent le refus des membres blancs de cette communauté de reconnaître leurs privilèges en tant que tels et de s'engager dans une lutte LGBT qui soit intersectionnelle. À l'instar d'Audre Lorde, nous comprenons qu'il n'existe pas de hiérarchie de l'oppression, mais qu'il existe des accumulations et, ainsi étant, une personne LGBT noire souffre de plus grandes oppressions qu'une personne LGBT blanche. Lutter pour la fin de la violence de la LGBT-phobie, sans relier à cette lutte la fin de l'inégalité raciale, est une manière dont les mouvements LGBT renforcent la sensation de non-lieu chez les bichasses noires. La sensation de ne pas avoir d'espace, de non-appartenance propre à l'expérience diasporique, apparaît également dans le champ de l'amour et de l'affection. La difficulté dans les relations amoureuses est liée à la baisse de son amour-propre. Ne s'aimant pas comme elle est et vivant avec la sensation imminente de rejet, la bicha noire tombe parfois dans un de ces aménagements compliqués, où elle ne se permet pas d'aimer et ne supporte pas de recevoir l'amour de l'autre quand elle est aimée. Où elle aime en se soumettant à une relation dans laquelle elle n'est pas aimée, où elle aime et est aimée, mais elle vit dans un état permanent d'anxiété ayant pour cause la sensation qu'à n'importe quel moment, cet amour peut s'arrêter. Toutefois, d'autres aménagements sont heureusement possibles. Le sauvetage de son amour-propre, à travers l'accès à ce que Noblesse appelle la pulsion palmarine, le désir d'être africaine, africain et libre, repositionne la bicha noire face à l'économie du désir. Elle oblige le non-lieu auquel elle a été reléguée à se transformer en un lieu d'affirmation grâce au sauvetage de sa valeur en tant que descendante du peuple qui, il y a de cela 2000 ans, travaillait déjà l'or et l'argent. La retrouvaille avec son histoire personnelle et l'histoire de son peuple à l'intérieur d'une narration propre, une narration noire et non traversée par le regard blanc colonisateur, est un chemin pour se relationner d'une autre façon avec soi-même. J'ai demandé à Osho comment rencontrer le vrai amour. Osho répondit en regardant toujours dans le miroir. La vie m'a rendu fleur. Dans le même corps, elle a fait des grenades. Le sauvetage de l'estime de soi, de la valeur de son histoire et de son peuple ne sont pas suffisants pour expurger les effets du racisme au sein de la subjectivité et du quotidien de la biche noire. Penser que se libérer des stigmates que le racisme produit est un travail psychologique que la biche noire doit entreprendre, c'est perdre de vue tout un engrenage social qui perpétue la suprématie blanche et reproduit des violences sur les corps noirs. Détruire le racisme implique détruire le monde tel qu'il se trouve aujourd'hui. Le travail sur soi, le soin envers soi-même, si fondamental pour que la biche noire demeure vivante dans un monde qui veut l'exterminer, est un outil de renforcement pour la confrontation permanente avec la réalité sociale du racisme. En tant que bichasse noire, nous vivons dans l'exercice d'éviter l'épuisement et de ne pas succomber à la tristesse que ce monde blanc hétéronormatif crée en nous. La tristesse est la base de la bicha bombe. Le prix que l'on paie pour détruire toute la merde qui nous contraint, c'est de prendre trop de temps avant de remarquer que l'explosion nous a, nous aussi, détruites. Pour nous, il n'y a pas de sortie facile, ni de route de fuite tranquille. Il y a un travail permanent de confrontation au statu quo, confrontation qui se produit simplement parce que nous existons. Ignorer la confrontation est une forme de résignation, une façon de mourir, peu à peu, tout lentement, pendant que le racisme aspire notre énergie vitale. Regarder la confrontation en face, l'assumer, c'est répandre des grenades dans tout le tissu social, provoquer des explosions micro et macro politiques, déstabilisation du statu quo, perforer la blanchité avec les os de la fracture ouverte que le racisme a produit en nous et voir le sang blanc se mélanger à notre sang noir jusqu'à ce que tous les deux deviennent rouges. Ma peau noire est mon manteau de courage, dit Linda Quebrada dans la musique Bicha Preta. Notre peau noire est à la fois cible et bouclier. C'est la raison pour laquelle nous sommes attaqués et la raison pour laquelle nous résistons à l'attaque. Dans cette perspective, Jota Mombasa parle des résistances des bichasses noires dans son texte « Le monde est mon trauma ». Ils sont venus pour nous tuer parce qu'ils ne savent pas que nous sommes immoribles. Ils ne savent pas que nos vies impossibles se manifestent les unes dans les autres. Oui, ils nous mettront en pièces parce qu'ils ne savent pas qu'une fois en pièces, nous nous répandrons, pas comme peuple, mais comme la peste, au cœur du monde et contre lui. Se situer contre le monde, tramer sa fin afin que d'autres mondes puissent venir à être possibles. La nécessité que ce monde se termine comme condition à la fin des violences du racisme et de l'homophobie nous traverse parfois de telle sorte que nous ressentons que ce qui doit se terminer, c'est nous-mêmes. La mort entre par le seuil de nos portes et atterrit dans nos poitrines, nous donnant la sensation que mourir serait le meilleur remède. Chacun, chacune de nous crée ses propres stratégies pour dialoguer avec l'envie de mourir. Quelques-uns, quelques-unes de nous succombent à cette volonté et se rendent. L'envie de mourir n'est pas la nôtre, c'est celle de ce monde. C'est le monde blanc qui désire notre mort, qui désire se perpétuer au moyen des privilèges d'une minorité au détriment d'une majorité. Vivre, c'est pouvoir ne pas répondre à cet appel mortifère du monde blanc hétéronormatif. Nos vies sont les semences d'un monde à venir et les grenades pour la destruction du monde actuel. Nous portons en nous cette ambiguïté apocalyptique. Nous résistons et continuons de par le monde avec nos existences diasporiques, créant des nouvelles modalités d'accueil, des nouveaux sens d'appartenance, forgeant nos propres quilombos. Les collectifs de bichasses noires, l'amitié avec les sœurs noires hétéro et LGBT, les relations amoureuses saines et les religions de matrice africaine sont des stratégies de survie. Un support à la vie quotidienne, une caresse pour la solitude qui s'empare de nous à la tombée de la nuit et joue un rôle important dans la réparation des dommages que les diasporas ont causés dans nos subjectivités.
Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Quis bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha, causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Bicha preta, tra, 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 tra. Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta, tra, 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 tra. A minha pele preta é meu manto de coral.
Les textes que vous avez entendus ont été écrits par les autrices brésiliennes Elton Panambi, Rebecca Carapia et Lucas Veiga. Ils ont été traduits par le collectif Braza, la traduction comme geste politique, constitué de Luana Almeida, Valentina Davenia, Aurore Zacayus et Léa Catarina Meyer, dans le cadre de la publication Texte à lire à voix haute, prochainement publié chez la maison d'édition Brook.
Pour ce podcast, les textes ont été lus par Nayan Sakou Mufankolo, Luan Almeida et Bastien Hippocrate. Les lectures étaient accompagnées d'une ambiance sonore par Jeanne Aspin. Le montage a été fait par Léa Catarina Meyer et le mixage a été réalisé par Julien Aher.
Texte à lire à voix haute est un projet de publication qui propose de traduire du portugais brésilien au français les textes de Ingrid Martins, Preto Teo, Mona Brutal, Tatiana Nascimento, Pacha Ana, Gracie Passo, Castiel Vitorino Brasileiro, Lucas Veiga, Ricardo Aleixo, Miro Spinelli, Musa Micheli Matiuzzi, Jota Mombasa, Pedra Costa, Rebecca Carapia et Elton Panambi.
Ces 15 poétex, artistes, chercheuses, écrivainex, constituent par leur production littéraire engagée des références pour les scènes artistiques, universitaires et militantes LGBTQIA+, et décoloniales brésiliennes.
Les textes sélectionnés ont été choisis par Diane Lima, Cynthia Guedes et Abigail Campos Leal.
Le but de cette publication est de permettre la diffusion de ces points de vue, non occidentalo-centrés, en les rendant accessibles aux lectrices francophones. Le processus de traduction est collectif, s'invente et se transforme au fur et à mesure des discussions avec leurs autrices, faisant se croiser des regards et des langues.
Le collectif Braza, la traduction comme geste politique, tient à remercier Stéphanie Rosianou pour son invitation à créer ce podcast et Rosana Puyol et sa maison d'édition Brook pour son soutien et son travail.
A destruição que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Quis bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Tra, tra, tra.
bicha preta, tra, 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 tra. Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta, tra, 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 tra. Sempre borralheira com um quê de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, sou agora um viu que bela aberração. É muito tarde, macho alfa. Eu não sou pro teu bico, não.